Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elle est surnommée la maladie de la misère, la lèpre. Toujours d'actualité, avec 200 000 nouveaux cas chaque année dans le monde, avec aussi ces nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé, formulées il y a moins de 6 mois. Prophylaxie, essais cliniques de vaccins, les chercheurs n'ont pas abandonné la lutte contre cette infection qui avait été peut-être à tort déclarée éliminée par la même OMS il y a déjà 18 ans. L'OMS donc, aujourd'hui, préconise qu'au-delà des malades, un traitement préventif soit administré à leur entourage direct, en présence des formes les plus contagieuses de l'infection. Prévenir la lèpre et surtout la diagnostiquer de façon précoce, ce qui n'est pas évident face à cette maladie silencieuse dont les premiers signes indolores n'inquiètent pas toujours. Pas évident non plus de consulter lorsque l'on vit loin des centres de soins. Et lorsque la maladie est là, mais qu'elle a déjà abîmé, mutilé, quelle prise en charge de ses séquelles, quel accompagnement? La lèpre, maladie de la misère, dont la guérison n'empêche pas de subir la stigmatisation associée souvent à une perte d'autonomie lourdement préjudiciable pour le bien-être des anciens malades. 66e journée mondiale des lépreux, 5 jours en réalité, pour informer, pour sensibiliser. Et avec nous, en studio, Dr Christian Johnson, bonjour.
Bonjour Madame Paris.
Vous êtes le président de l'Association internationale contre la lèpre, conseiller médical à la Fondation Raoul Follereau en poste au Bénin. On retrouve en direct de Strasbourg, en duplex des studios de France Bleu Alsace, le docteur Antoine Mahé. Bonjour docteur.
Bonjour Madame Paré, bonjour Dr Johnson.
Bonjour Dr Maillé.
Vous êtes chef de service dermatologue au centre hospitalier des hôpitaux civils de Colmar, président du groupe Peau Noire de la Société française de dermatologie, auteur du livre Dermatologie sur la peau noire aux éditions Douin. Et puis pour évoquer les dernières avancées de la recherche dans ce domaine de la lèpre, nous retrouverons tout à l'heure en ligne le professeur Stuart Cole, microbiologiste, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris. Et en fin d'émission, nous partirons pour l'Afrique de l'Ouest pour évoquer l'épidémie de fièvre de Lassa qui sévit au Nigeria. Nous retrouverons le docteur Marie Jaspard, médecin infectiologue pour l'ONG Alima, médecin chercheur pour l'INSERM à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, vos questions, vos messages, n'hésitez pas à nous appeler 33 1 84 22 75 75 et bien sûr, la page Facebook de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
La lèpre toujours d'actualité, contrairement à ce que pense beaucoup de monde. Je citais tout à l'heure ces directives de l'Organisation mondiale de la santé. Elles remontent à septembre dernier. Docteur Christian Johnson, une double question pour commencer. Le contenu précis de cette nouvelle approche de l'OMS, qui faut-il traiter et pourquoi? Et puis, est-ce que c'est une bonne chose d'aller justement vers ces traitements préventifs?
Oui, merci beaucoup. Ces directives ont été publiées en septembre 2018 et en plus du dépistage et du traitement précoce par la polychimiothérapie, qui est une association d'antibiotiques extrêmement efficace pour tuer le germe responsable de la maladie. Justement, cette directive propose une nouvelle approche, qui est la chimioprophylaxie lorsque c'est possible. Et cette chimioprophylaxie, c'est une administration d'une dose unique de rifampicine pour tous les sujets exposés. La lèpre étant une maladie qui se manifeste parfois par une forme que nous appelons une forme multibacillaire, qui est la forme qui abrite, où l'organisme du malade abrite beaucoup de germes, et éventuellement c'est la forme la plus contagieuse. Donc devant autour des sujets contact de ces personnes, l'OMS recommande cette antibioprophylaxie qui a essentiellement pour objectif de stopper la transmission de la maladie. Et ça, c'est quelque chose de formidable.
Et alors, quand on dit entourage, Dr Christian Johnson, on parle des gens qui sont directement au quotidien, au contact. On peut dire, par exemple, la personne qui partage le lit, la personne qui fait la toilette. Vraiment, il faut qu'il y ait un contact répété et, on va dire, quasi quotidien.
Exactement. Il faut un contact répété. C'est l'entourage immédiat du malade, ceux qui vivent avec le malade et qui sont exposés à la contamination. Et justement, quand nous faisons les enquêtes de dépistage sur le terrain, on dépiste très souvent des malades dans l'entourage proche du malade. Donc c'est une cible extrêmement importante pour cette campagne de chimioprophylaxie.
Alors, depuis 18 ans, l'OMS avait donc annoncé cette éradication. C'est certainement pour ça que, par exemple, Joseph, qui est un auditeur de Port-au-Prince en Haïti, dit « Moi, je pensais que cette maladie était déjà éradiquée. Dans les faits, on le constate aujourd'hui. C'est non. »
En fait, l'OMS a déclaré la lèpre éliminée comme problème de santé publique. Et le seuil fixé, c'est un cas pour 10 000 habitants. Donc, la plupart des pays du monde ont atteint ce seuil. Mais force est de constater que depuis les 15 dernières années, le nombre de nouveaux cas stagne autour de 200 000 nouveaux cas chaque année, alors que les prévisions, on projetait que ce nombre allait progressivement diminuer. Bien au contraire, ce nombre ne diminue pas, stagne. Et lorsqu'on fait les campagnes de dépistage actifs, eh bien, on trouve toujours beaucoup de nouveaux cas dans les communautés endémiques. Donc, nous sommes vraiment confrontés à cette situation. Et justement, c'est ce qui explique les nouvelles directives qui prévoient des mesures beaucoup plus fortes pour stopper la transmission de cette maladie, à savoir le dépistage et le traitement précoce par la polychimiothérapie et le traitement des sujets, la prévention des sujets exposés, des sujets à risque par la chimioprophylaxie.
Alors, vous avez employé le terme, Dr Christian Johnson, de dépistage actif. On va expliquer aux auditeurs de Priorité Santé bien la différence entre dépistage actif pour la lèpre et dépistage passif. C'est quoi la différence ?
De façon classique, ce que nous avons pratiqué jusqu'à maintenant, c'est que on informe la communauté et on attend que spontanément, quand une personne a une tache au niveau de la peau, cette personne puisse venir consulter. Mais quand nous savons que dans nos pays, nous sommes confrontés à ce que nous appelons souvent la triple accessibilité, c'est-à-dire accessibilité géographique, les centres de santé sont loin des populations, accessibilité économique, parce que ce sont la plupart des populations pauvres, mais aussi l'accessibilité culturelle, parce que les malades pensent que la lèpre est due à un envoûtement, etc., etc. On constate que beaucoup de patients ne consultent pas. Et lorsque ces patients se décident à consulter, c'est souvent tard. Donc la stratégie correctrice, c'est de dire, eh bien, nous n'allons plus attendre que les malades viennent à nous, mais de façon active, nous irons dans les communautés et nous allons examiner, nous allons sensibiliser pour avoir un dépistage précoce.
Là, j'ai un message sur notre page Facebook qui est en écho à ce que vous venez de dire. C'est Paul de Cotonou, hein, justement, chez vous, du Bénin. Il dit, dans nos villages, la lèpre est considérée comme un envoûtement qu'aucun médicament moderne ne peut guérir. Et le message, justement, aujourd'hui, dans cette émission est plus largement, au travers de cette journée mondiale des lépreux, c'est de dire si il y a des traitements, et puis quand on est malade, on peut guérir, et après il peut y avoir une prise en charge des séquelles.
On a un traitement qui est extrêmement efficace au niveau de la Fondation Raoul Folloro avec l'Organisation Mondiale de la Santé et les autres partenaires de l'ILEP. Nous avons conduit une étude pour tester la sensibilité des antibiotiques qui sont utilisés actuellement dans le traitement de la lèpre. Et nous sommes heureux de dire que le traitement est encore très efficace. Donc, il y a un traitement et ce traitement est efficace. Effectivement, l'année dernière, au Bénin, on a conduit une enquête pour voir un peu, pour mesurer la stigmatisation des patients. Et nous avons vraiment constaté que les gens pensent, les malades, les communautés pensent que la maladie est due à un envoûtement. Et ça induit une stigmatisation que nous avons évaluée à trois niveaux. Le premier niveau, c'est déjà l'auto-stigmatisation. Le malade, il pense que c'est une malédiction, c'est un envoûtement. Il souffre déjà de ça et il a du mal à assumer cette situation. On a également une stigmatisation au niveau de la famille. Et éventuellement un troisième niveau qui a une stigmatisation au niveau de la communauté. Donc c'est vrai, les gens pensent que c'est un envoûtement, mais je voudrais dire clairement que la lèpre n'est pas un envoûtement. C'est une maladie infectieuse qui se soigne et qui peut guérir sans séquelles lorsque c'est dépisté et corrigé et traité tôt.
Alors justement, dépistage pour trouver ce fameux germe, ça se passe comment quand la personne qui voit justement cette petite tache sur la peau arrive au centre de santé? On lui fait quoi, docteur Christian Johnson, comme examen?
Ben, quand la personne qui a une tache au niveau de la peau vient au centre de santé consulter, eh bien l'agent de santé va l'examiner entièrement. hein, parce que les taches peuvent être cachées à des endroits, à certains endroits du corps humain. L'agent de santé va les examiner et quand, par exemple, il y a des taches, c'est-à-dire une modification de la couleur de la peau qui devient plus claire que la peau normale, à ce moment-là, l'agent de santé va faire ce que nous appelons un test de sensibilité. Ça, c'est un test très simple que l'agent de santé va faire sur la tâche. Et lorsqu'il y a une perte ou une diminution nette de la sensibilité, eh bien, il va poser le diagnostic de la lèpre et mettre son malade sous traitement. Et le traitement est gratuit. Le traitement est gratuit. Donc, et c'est ce que nous souhaitons. Quand on dépiste à cette étape, on peut avoir de très bons résultats sans des complications.
Alors, reconnaître la lèpre, on va en parler justement avec vous, docteur Antoine Maille, en ligne de Strasbourg. On vous retrouve. On parle de ces lésions au niveau de la peau et on peut dire aux auditeurs, attention de ne pas les confondre peut-être avec d'autres tâches.
Alors, les lésions de la lèpre sur peau foncée se caractérisent par une diminution du pigment. Donc, ça fait une tache claire, en fait, hein. Bien sûr, c'est différent quand, dans les cas plus rares, mais qui existent toujours, ça survient sur une peau dite blanche, où là, c'est plutôt une tache rouge. Mais enfin, concentrons-nous sur la peau foncée, la peau noire. Et là, effectivement, il s'agit d'une tache claire. Alors, il faut, bien sûr, s'inquiéter de l'existence d'une tache claire, mais ce n'est pas non plus automatiquement une lèpre, hein. Il y a beaucoup de causes de taches claires. Et... il s'agit de tâches, dans le cas de la lèpre, il s'agit de tâches qui persistent. C'est pas des choses qui vont s'effacer comme ça au bout de quelques semaines, mais donc ça devient un petit peu chronique. Et d'autre part, ainsi que le rappelait Dr. Johnson, il y a, dans le meilleur des cas, des troubles de la sensibilité superficielle. C'est-à-dire, on pique, ou on sent moins la piqûre, ou le toucher, ou encore la sensation de froid ou de chaud.
Mais par exemple, pour ces tâches, il n'y a ni desquamation, ni démangeaison, par exemple.
Alors, ça ne démange pas du tout. Ça, c'est effectivement un bon signe de diagnostic différentiel. Et ça ne desquame pas non plus. Parce qu'après, il y a d'autres causes, hein, plus banales, comme certains champignons, comme le Pityriasis versicolor. Il y a aussi certaines formes d'eczéma qui, sur peau noire, se caractérisent par une desquamation et une tache claire. Mais là, effectivement, souvent, il y a des démangeaisons. Voilà. Donc, il y a tout un tas de diagnostics différentiels. Mais en fait, si on y pense, et si on a été formé pour reconnaître la lèpre, un agent de santé, même périphérique, a normalement les qualifications suffisantes pour arriver à un bon diagnostic. Bon, il reste quelques cas difficiles où il faut pouvoir référer, mais il faut en fait à la fois s'inquiéter, ne pas trop s'inquiéter, parce que sur les causes de taches claires, la lèpre n'est pas toujours la cause la plus fréquente.
Alors, décoloration, pour parler simplement, ça ne gratte pas, ça ne pèle pas. Par contre, entre la dépigmentation et ensuite, quand on va vers les signes neurologiques qui peuvent impliquer des choses très graves, hein, comme des amputations ou la cécité, c'est quoi le processus qui va de la peau au nerf?
Voilà. Alors, en fait, comme l'a rappelé tout à l'heure le docteur Johnson, on le dit souvent, la lèpre, c'est une maladie neurologique à expression initiale dermatologique. Et donc, en fait, dans les différentes étapes du processus de la maladie, le premier signe survient au niveau de la peau. Et puis, secondairement, si on laisse évoluer ou si on ne consulte pas, mais souvent ça peut prendre des années, les nerfs, à ce moment, les gros nerfs, c'est-à-dire les nerfs profonds qui commandent la motricité et la sensibilité, par exemple des mains ou des pieds, commencent à être touchés progressivement de plus en plus. Voilà. Tout ça, c'est dû au bacille de la lèpre, Mycobacterium leprae, qui a un tropisme préférentiel, c'est-à-dire qu'il aime bien s'attaquer aux nerfs. Et d'ailleurs, même dans la peau, il y a des petits nerfs, et c'est ça qui explique que les taches claires de la lèpre s'accompagnent d'un trouble de la sensibilité.
Voilà. Alors, est-ce qu'on parle en fonction justement de ces atteintes, docteur Antoine Maille, de plusieurs stades de la maladie?
Ben, on peut dire tout à fait ça, oui, oui. Donc, en général, ça commence par la peau, et puis, un certain temps, on va dire des années après, ça va toucher les nerfs. Bon, maintenant, ça reste de la médecine. Il y a des grandes variabilités d'un individu à l'autre. Il arrive que parfois, ça commence par les nerfs, mais c'est beaucoup plus rare.
Alors, docteur Antoine Maille, docteur Christian Johnson, vous restez avec nous. Tout de suite, une illustration.
RFI.
Si la lèpre se soigne, le handicap lui reste à vie. Message de cette journée mondiale des lépreux. Au Bénin, Delphine Bousquet a rencontré un ancien malade. Il a 52 ans. Les premières taches sont apparues sur sa peau quand il avait 12 ans seulement. Mais la lèpre, elle, n'a été détectée que 20 ans plus tard. Aujourd'hui, il est marié, père de 4 enfants. Il vit presque normalement et travaille et se déplace en moto.
À l'âge de 35 ans, j'ai commencé à sentir des malaises. On m'a indiqué un centre qui est le centre des grandes endémies. Et je suis allé là-bas et c'est là qu'ils ont découvert que c'était les taches de la lèpre et que c'était déjà les réactions de la lèpre. Alors, c'est là que j'ai commencé le traitement. Et j'étais un multibacillaire, c'est-à-dire il y avait déjà assez de bacilles dans mon corps. Donc, c'était le traitement à haute dose que j'avais fait. Il y avait des réactions intenses. On m'a mis aussi sur un produit qu'on appelle corticoïde, et qui d'ailleurs a causé beaucoup de dégâts sur mon organisme. Ça m'a créé des problèmes au niveau de la hanche, les os de la hanche. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je porte deux prothèses de hanche. Parce que les os de la hanche étaient complètement foutus et je ne pouvais même plus marcher à un moment donné. Au niveau de la vue, ça développe aussi le glaucome. Présentement, je porte les verres. J'ai été pris en charge par la Fondation Raoul Folero, mon traitement, tout. Même les verres que je porte pour mon problème de vue, c'est toujours eux qui se sont chargés de ça.
Est-ce que vous êtes toujours soigné aujourd'hui?
Aujourd'hui, mes soins ne sont plus les soins médicaux. C'est de l'auto-soin. Contrôler sa vie. La lèpre détruit les nerfs. Et quand vous avez les nerfs qui ne marchent pas, là, vous devez être sur le qui-vive. Vous pouvez vous brûler facilement sans vous rendre compte. Donc, et tout ça là, il faut savoir gérer ça. Je suis instruit et je connais tout ça là. Et bon, je me suis dit... Et il faut que je me prenne en charge.
Vous avez une griffe à la main gauche,
oui.
Mais elle n'est quasiment pas visible. Comment vous faites?
C'est l'entretien. Aujourd'hui, c'est un doigt et demi qui est plié. Si je n'utilisais pas la pommade, je ne fais pas ce massage, le bain, tout ça là, les autres aussi seraient pliés, alors ça serait très visible.
Est-ce que votre entourage sait que vous avez eu la lèpre? Votre famille, les gens avec qui vous travaillez, vos amis?
La seule personne dont je sais qu'elle a la certitude que c'était la lèpre, c'est ma maman qui, depuis mon bas âge, et voyait cette tache-là. Et bon, après que ça a été détecté, je lui ai dit ça. La lèpre, c'est comme une malédiction. Quand vous l'avez, on ne vous approche pas. Vous êtes rejeté. La preuve est que les centres de traitement de lèpre sont éloignés de la ville. Et quand on vous amène là-bas, tes parents t'oublient là-bas. Les anciens lépreux ont passé toute leur vie dans les centres de santé là, et parce qu'ils ne peuvent plus retourner, même s'il est guéri.
Même quand on est guéri, on est stigmatisé, c'est ce que vous voulez dire.
Si, mais si vous êtes guéri et que vous portez des séquelles, qui sont des séquelles très visibles, même aujourd'hui, là, vous êtes rejeté, hein, vous êtes repoussé.
Aujourd'hui, vous travaillez, vous conduisez une moto. Est-ce que vous êtes l'exemple qu'on peut avoir eu la lèpre et vivre comme tout le monde?
Oui, parce que après la lèpre, là, j'ai passé même mon permis de conduire, je conduis. Il faut aimer la vie et oublier que la lèpre, c'est une malédiction. Même si ça a été une malédiction, dès que on vous a traité, c'est que la malédiction aussi est partie. Reprenez la vie et vivez comme toute autre personne.
Reportage Delphine Bousquet au Bénin. Docteur Antoine Mahé, on vous retrouve à Strasbourg. Je voulais qu'on revienne sur ce que vient de dire ce témoin, cet homme. Il prend soin des zones désensibilisées. Ça veut dire que même quand on est déclaré guéri, il faut continuer à se soigner.
Alors ça, c'est le cas de figure des gens qui ont des séquelles neurologiques. Hein. Donc, je rappelle que si on fait le diagnostic de la lèpre au stade purement cutané, dermatologique, à ce moment, il y aura non seulement il n'y aura pas d'atteinte neurologique, mais il n'y en aura jamais. Donc on peut considérer qu'on est guéri définitivement. Maintenant, quand le diagnostic a été tardif, il y a effectivement une atteinte neurologique qui, si elle est elle-même assez évoluée, ne va pas régresser, donc il va rester des séquelles, effectivement. Et donc ces séquelles, elles se traduisent par des troubles moteurs, hein, ce que parlait tout à l'heure la griffe, c'est-à-dire il y a certains doigts de la main qu'on peut pas déplier ou qu'on peut pas plier avec la force qu'il faudrait normalement. Il y a également des troubles de la sensibilité. Et ces troubles de la sensibilité, c'est très important justement d'avoir une attitude préventive vis-à-vis, parce que la sensibilité, la sensation de douleur, en fait, c'est une protection. C'est-à-dire, vous piquez, vous touchez quelque chose de brûlant, aussitôt vous allez retirer la main, c'est une protection. Et bien justement, dans la lèpre, comme dans d'autres maladies neurologiques, le trouble de la sensibilité fait que quand on va être en contact avec une agression, une brûlure, une piqûre, on ne va pas retirer la main puisqu'on n'a pas la sensation. Et donc petit à petit, ça c'est ça, la main ou le pied d'ailleurs, hein, et c'est ça qui va détruire la peau, puis éventuellement l'os, l'articulation, etc. Donc c'est très important de faire attention préventivement, il faut avoir un chaussage tout à fait adapté. C'est un petit peu comme au cours d'autres maladies, comme le diabète. Hein.
Le pied diabétique qui retire cette sensibilité.
Le pied diabétique, voilà. Il faut être très attentif, donc il faut examiner son pied. Il faut le graisser avec des crèmes hydratantes. Il faut surveiller la moindre petite plaie qui peut s'infecter, qui peut être le début d'un ce qu'on appelle un mal perforant, c'est-à-dire un trou hein, qui vient dans la peau jusqu'à l'os. Voilà, donc il y a une grosse prévention qui est importante.
Docteur Christian Johnson, je m'adresse à vous. Ce témoignage, on ne parle pas vraiment de léproserie, mais quand même de centres isolés des villages. Est-ce que ça existe encore?
Les léproseries ont disparu. Et aujourd'hui, nous avons des centres qu'on appelle des centres de traitement anti-lèpre, mais qui sont en fait des centres où on soigne tous les malades. Aujourd'hui, ce n'est plus des centres dédiés uniquement au traitement de la lèpre. Ça n'existe plus.
Au Bénin. Cet abandon dont il parlait, c'était quelque chose de réel? On allait conduire les malades, on les laissait là parce que finalement, on ne savait pas quoi faire et aussi parce que les gens avaient peur?
Dans les temps, au moment où on n'avait pas généralisé la polychimiothérapie qui est le traitement actuel, les malades étaient isolés. Mais avec cette approche maintenant, cet isolement n'est plus de mise dans les pays. Je voudrais exprimer avec beaucoup de satisfaction que le malade qui vient de témoigner rencontre des nouvelles stratégies et des nouvelles orientations que nous expérimentons sur le terrain actuellement. Aujourd'hui, il a dit, je fais de l'auto-soin, je suis éduqué, on m'apprend à me prendre en charge moi-même. C'est un peu dans cette direction que nous allons à travers, on expérimente 4 stratégies et c'est un peu ce que nous faisons dans les pays. Je suis heureux de constater que les malades commencent par intégrer cela.
L'accompagnement, ce ne sont pas simplement par exemple des prothèses, des fauteuils, ce sont aussi des soins et des conseils.
Des soins et des conseils. D'abord, on commence déjà par ce que nous appelons le dépistage intégré des maladies dermatologiques. Aujourd'hui, nous n'allons plus dans les communautés pour dire que nous allons dépister la lèpre. Mmh. Nous allons dans les communautés pour dire que nous sommes venus pour voir les problèmes de peau. Comme ça,
le message passe mieux
et les malades ne sont plus isolés. Pour les malades qui, malheureusement, comme le docteur Antoine Maé vient de l'expliquer, ont déjà des séquelles neurologiques, nous faisons ce que nous appelons l'auto-soin. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre que les lésions s'installent et le malade vient à l'hôpital faire 3 mois d'hospitalisation, eh bien nous lui apprenons dans le village, dans la communauté, comment il va prendre soin de ses mains, comment il va prendre soin de ses pieds, et pour prévenir comme ça les complications qui pourraient éventuellement survenir. Il a dit quelque chose de très simple, c'est que quand je lave ma main, je trempe, je lubrifie, et c'est exact. On s'est rendu compte par exemple que on donne ces conseils aux gens, mais s'ils n'ont pas d'eau, mmh. Est-ce qu'ils vont tremper tous les jours?
S'adapter à la situation du terrain.
Exactement. Donc, nous faisons également la promotion de l'eau et de l'hygiène. Donc, on va progressivement vers une stratégie simple qui permet de lever le niveau de santé et de lutter contre la lèpre.
Santé publique. En général, docteur Christian Johnson, là, c'était un exemple justement au Bénin. C'est le pays où vous êtes en poste en tant que conseiller médical à la Fondation Raoul Follereau. Quelle est la situation en Afrique subsaharienne aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, en Afrique, nous avons autour de 20 à 25 1000 nouveaux cas qui sont dépistés chaque année en Afrique. Il y a des pays qui sont très pourvoyeurs de lèpre, hein, l'Éthiopie, le Nigeria, la Tanzanie, la République démocratique du Congo qui dépistent tous ces pays dépistent en moyenne 3000 nouveaux cas chaque année. Pour ce qui concerne les pays coordonnés par la Fondation Raoul Follereau, nous avons Madagascar qui dépiste autour de 1500 à 2000 nouveaux cas chaque année. Nous avons la Côte d'Ivoire qui dépisse autour de 800 à 1000 nouveaux cas chaque année et éventuellement les pays comme le Bénin où nous avons de façon stable autour de 200 nouveaux cas chaque année. Mais le nombre de nouveaux cas ne traduit pas toute la gravité de la lèpre. Il faut dire que chaque année, c'est 12 000 personnes qui sont dépistées déjà infirmes de la maladie. Mmh. Et dans le cas du Bénin, c'est 25% des malades qui sont dépistés avec des séquelles neurologiques.
Parce qu'on peut pas mettre sur le même plan les dépistages, on va dire, simplement dermatologiques. Là, on a entendu tout à l'heure parfaitement avec le docteur Antoine Mahé, on est guéri. Et les autres qui vont impliquer derrière une prise en charge beaucoup plus lourde.
Beaucoup plus lourde et beaucoup plus longue. Regardez par exemple la lèpre, ce sont les adultes jeunes. Je disais que dans mon pays, c'est 25% des malades qui sont déjà dépistés avec une infirmité. Donc ça veut dire que ces personnes, nous allons les gérer toute leur vie. Et c'est toute la problématique de la maladie aujourd'hui où nous devons à la fois assurer un dépistage précoce, mais aussi prendre en charge celles et ceux qui ont déjà des conséquences neurologiques de la lèpre.
Alors dépistage et quand c'est positif, association d'antibiotiques. Alors il y a d'autres recours hein, contre la maladie, des pistes prometteuses. On va s'intéresser à présent aux dernières avancées dans ce domaine de la recherche contre la lèpre avec vous, professeur Stuart Cole, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, justement. Lèpre, maladie antique, maladie de l'histoire, toujours d'actualité, justement. Aujourd'hui, quels sont les principaux projets de recherche pour aller plus loin dans la lutte contre cette maladie, professeur Cole ?
Il y a deux projets majeurs. Donc, le premier concerne mieux comprendre l'épidémiologie de la lèpre. Comme vous venez d'entendre du Dr Johnson, le nombre de nouveaux cas de lèpre est resté relativement stable. Et une des raisons pour cela, c'est que peut-être, à part l'homme, il y a d'autres réservoirs de transmission du bacille de la lèpre. Et ces dernières années, les chercheurs ont mis en évidence que aux États-Unis et en Amérique centrale, les personnes qui ont un contact avec le tatou contaminé par Mycobacterium leprae peuvent attraper la lèpre. Et dans ces régions-là, par exemple, le tatou est très prisé pour comme source de d'alimentation. Et en consommant la viande, tatou, on peut attraper la lèpre.
Un animal un petit peu assimilé, un petit peu à de la viande de brousse dans d'autres régions du monde.
Exactement, c'est ça. Et puis, plus récemment, des chercheurs ont montré qu'au Royaume-Uni, il y a l'écureuil roux qui peut aussi être un vecteur, une source de Mycobacterium leprae et d'autres bacilles de la lèpre.
Mais j'imagine que là, en Grande-Bretagne, on ne mange pas d'écureuil. Donc, non, professeur Stuart Cole, c'est quoi ? C'est par les urines, par le contact ou des morsures ?
Non, il n'y a aucune évidence que l'écureuil puisse transmettre la lèpre aux Britanniques. Mais dans le passé, par exemple, on mangeait les écureuils en Europe au Moyen Âge, et surtout on utilisait la fourrure pour les vêtements. Et donc ça aurait été un moyen donc de introduire le bacille dans le corps humain par le contact. Et la deuxième piste que nous poursuivons actuellement, c'est la recherche d'un nouveau traitement pour la lèpre, parce que actuellement le traitement, la polychimiothérapie, bien qu'il soit très efficace, c'est un traitement de longue durée, de 6 à 12 mois selon le cas, et ce qui peut poser des problèmes pour les personnes affectées, c'est parce que c'est, vous savez, même quand on a une angine, parfois on a du mal à prendre un traitement à base d'antibiotiques pendant une semaine, donc imaginez-vous que un traitement qui dure un an, c'est contraignant. Donc si on arrivait à trouver un traitement plus efficace, on pourrait éventuellement réduire la durée du traitement.
Et bien sûr, l'arme absolue en termes de prévention, on pense au vaccin. Il y a des essais qui sont en cours aux États-Unis. Oui. Professeur Stewart Cole, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Ben, donc, nos collègues américains, donc l'American Leprosy Mission, donc l'équivalent de la Fondation Raoul Français, aux États-Unis, ont développé un vaccin qui a montré une très bonne efficacité pour prévenir la lèpre et surtout les séquelles neurologiques dans un modèle animal qui est justement le tatou dont je parlais il y a quelques instants. Donc ce vaccin expérimental est une piste très prometteuse maintenant. Et actuellement, il est en essai clinique chez l'homme et c'est ce qu'on appelle la première phase, la phase 1. Et là, le but, c'est de montrer que le vaccin est inoffensif, il est bien toléré et qu'il induit les réponses immunitaires attendues. Et donc, cet essai est actuellement en cours.
Et on suivra bien sûr les suites, les autres phases de ces essais très importants hein, en termes de prévention de la lèpre. Merci infiniment pour toutes ces précisions, professeur Stewart Cole. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes microbiologiste, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris.
Priorité santé sur RFI.
On vous retrouve en studio, docteur Christian Johnson, président de l'Association internationale contre la lèpre, conseiller médical à la Fondation Raoul Follereau. On l'a compris, hein, plusieurs spécialités qui s'attaquent à cette même maladie, la recherche, la dermatologie, la neurologie. Dépister de façon précoce, c'est essentiel. Et puis, quand les séquelles sont là, prévention des invalidités, bien sûr, mais aussi prise en charge, accompagnement, là c'est très large, docteur Christian Johnson. Justement, comment est-ce qu'on fait en termes de prothèses, en termes d'équipement et en termes même, on disait tout à l'heure, de conseils?
Effectivement, lorsque le malade est dépisté déjà avec des séquelles, on ne va pas le laisser à son sort. On va essayer de l'accompagner. D'abord, le premier volet, c'est ce que nous appelons la prévention des invalidités. Cette prévention des invalidités, ça passe par un diagnostic précoce des réactions, des complications de la maladie. C'est ce que le malade qui a témoigné tout à l'heure disait, je suis venu avec des réactions, au stade de réaction, et on m'a donné des anti-inflammatoires puissants, on m'a donné de la cortisone. Donc un malade qui a déjà des complications, des réactions, nous allons vigoureusement traiter ces réactions pour récupérer en fait le nerf. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de cette étape, évidemment, les lésions neurologiques sont déjà en place et nous allons faire ce que nous appelons la réadaptation physique. Cette réadaptation physique va passer par différentes étapes. Par exemple, on peut être amené à faire de la chirurgie correctrice, on peut être amené à faire des chaussures adaptées, on peut être amené à faire des orthèses, on peut être amené à faire des prothèses. Donc, en fonction du malade qu'on a en face de nous, on va essayer d'adapter cette étape. Mais surtout, l'élément le plus important, c'est l'auto-soin. Parce que c'est une maladie, c'est des complications qui vont durer dans le temps. Donc, on va passer beaucoup de temps à expliquer au malade comment il va se prendre en charge lui-même. Donc, on va lui dire, on va l'éduquer à faire attention à comment protéger ses yeux. On va l'éduquer à faire attention à ses mains. On va l'éduquer à faire attention à ses pieds. Et lorsque le malade a bien intégré ces notions, il peut vivre facilement avec son infirmité. Et c'est vraiment le but que nous recherchons dans nos interventions.
Docteur Christian Johnson, tout à l'heure vous disiez la chimiothérapie, l'antibiothérapie est prise en charge, c'est gratuit quand c'est dépisté. Qu'est-ce qu'il en est de tous ces équipements qui coûtent extrêmement cher?
On essaie donc de rendre ce traitement accessible, mais ce traitement a un coût. Ce traitement, il est gratuit pour le malade ou très abordable pour le malade, mais ce traitement a un coût. Et c'est justement en cela que la Fondation Raoul Follereau se mobilise pour apporter les ressources pour pouvoir faire face à ces coûts-là. Et donc, les 25, 26 et 27 janvier, des bénévoles de la Fondation Raoul Follereau vont parcourir les contrées pour faire une quête et collecter des ressources qui serviront à pallier, à prendre en charge les soins que que nous déployons dans les communautés endémiques. Et nous voudrions vraiment demander à la communauté d'être généreux, de nous accompagner dans ce processus.
Docteur Antoine Mahé, quand il y a un équipement avec une prothèse, est-ce qu'il y a un risque de lésion au niveau de la peau, au niveau du contact justement entre cette prothèse et on va dire communément le moignon?
Alors c'est toujours possible, hein. Ça, d'ailleurs ça ne diffère en rien de toutes les complications qu'on peut observer au niveau de la peau lors de prothèses. Bon, ça d'une part ça veut quand même dire que la prothèse peut être pas parfaitement adaptée, parce que elle peut être adaptée à un moment et puis le patient change de morphologie, il prend du poids ou au contraire il en perd, et donc la prothèse sera plus forcément adaptée. Donc là il faut que le patient lui-même, justement, grâce à l'auto-éducation, l'éducation thérapeutique en fait, hein, se prenne en charge et de lui-même décèle les imperfections de la prothèse. Bon, les prothèses restent incontournables, mais comme toute intervention, elles peuvent avoir à un moment ou à un autre des complications.
Tout à l'heure, on a parlé de prévention, de dépistage, l'élément essentiel, bien sûr, pour que les gens aient connaissance des risques et de la réalité, aussi de savoir justement que on peut soigner à des stades précoces. C'est cette sensibilisation. Docteur Christian Johnson, qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau de la communauté pour informer sur la lèpre? On l'a compris, hein, dans les villages, une maladie qui fait peur encore.
Dans la communauté, nous déployons la stratégie du dépistage intégré des maladies de peau. Comment ça se passe concrètement? Souvent la veille, les équipes se rendent dans le village, sensibilisent la population et annoncent que la lèpre commence d'abord par des taches au niveau de la peau. Et on prend rendez-vous avec la communauté en leur disant, tel jour, des équipes de santé vont se rendre dans votre communauté, venez vous faire consulter. Donc on fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de mobilisation sociale, et cette sensibilisation et cette mobilisation sociale, c'est accompagné d'un dépistage le lendemain ou à un jour convenu de commun accord avec la population. Et nous examinons tout le monde. Ceux qui ont la lèpre sont dépistés et reçoivent leur polychimiothérapie. Les autres maladies dermatologiques sont éventuellement soignées et les sujets à risque reçoivent leur prévention, leur chimioprophylaxie. Et c'est cette stratégie qui est une stratégie innovante, nouvelle, que nous déployons. Et je pense que c'est quelque chose de très heureux aujourd'hui et qui donne vraiment de la vigueur. Et nous espérons que les prochaines années, nous allons faire ce que nous appelons la mise à l'échelle de ces stratégies au niveau des communautés endémiques.
Alors cette information, est-ce qu'elle passe aussi par la lutte contre les stigmatisations? Comment faire passer ce message, Dr Christian Johnson?
Actuellement, dans les objectifs de la lutte contre la lèpre, nous avons trois objectifs. Stopper la transmission, prévenir et mettre fin aux invalidités et rompre les barrières de l'exclusion et de la stigmatisation. Je disais tantôt que si vous déployez tous les efforts et que le malade se sent stigmatisé, le malade ne viendra pas. Il a peur de venir. Je me souviens de cette dame que nous avons reçue en consultation et qui, on lui a fait le diagnostic de la lèpre et elle a dit « Ne dites pas ça à mon mari, sinon je vais divorcer ». Donc c'est vraiment encore un problème, c'est pour ça que on met beaucoup l'accent sur l'éducation de la communauté, sur la sensibilisation de la communauté, pour que cette communauté comprenne que la lèpre est une maladie infectieuse, que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un envoûtement, et qu'un traitement efficace existe et disponible.
Justement, sur ce regard sur les maladies de peau, sur cette apparence qui change, docteur Antoine Mahé, c'est quelque chose de particulier à votre spécialité. Est-ce qu'on peut dire que la lèpre, à ce titre, reste encore aujourd'hui une maladie à part?
Elle reste quand même un petit peu à part, puisque on l'associe spontanément aux infirmités. Hein, et donc, une image très, très, très altéré avec donc c'est vrai que c'est la vérité pour beaucoup de maladies de peau, mais pour la lèpre c'est particulièrement important puisque ça s'accompagne dans le plus mauvais des cas, en cas de diagnostic tardif, de séquelles neurologiques qui sont visibles, hein. Donc c'est ça surtout qui fait la spécificité de la lèpre, qui fait qu'elle est crainte et qu'elle est stigmatisante, voilà, malgré tout.
Aujourd'hui, une maladie qui a disparu dans certaines régions du monde, qui est toujours là dans d'autres régions du monde. Est-ce qu'on peut dire, Christian Johnson, Dr Johnson, que la lèpre, peut-être plus que toute autre maladie, c'est une maladie des inégalités?
Quand on superpose la carte de la lèpre, de l'endémie lépreuse, à la carte de la pauvreté dans le monde, on voit bien que c'est deux situations qui se superposent. Donc, il est clair que la pauvreté fait le lit de plusieurs maladies infectieuses, dont la lèpre pourrait être considérée comme l'emblème. Surtout que c'est une maladie qui repose sur un paradoxe, c'est-à-dire nous venons de voir que ces complications peuvent être très lourdes financièrement pour les communautés et les systèmes de santé, alors que justement c'est une maladie qui concerne les communautés pauvres. C'est d'ailleurs pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a classé la lèpre dans le groupe des maladies tropicales négligées.
Parce qu'il faut davantage de moyens, justement, pour, c'est ma dernière question, Dr Christian Johnson, pour un programme de lutte, on va dire, très large, quasiment global, où on parle carrément de l'environnement, du lieu de vie des personnes et de leur niveau de vie. Le niveau de vie conditionne, justement, la vulnérabilité à la lèpre.
Tout à fait. On s'est rendu compte que si on fait ce que nous appelons une lutte verticale, c'est-à-dire qu'on va seulement dire, on va dans la communauté dépister le malade de la lèpre et faire sa chimiothérapie, sa polychimiothérapie, on ne règle pas le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous déployons une stratégie beaucoup plus large que nous appelons stratégie intégrée. Et cette stratégie intégrée a plusieurs composantes, que ce soit le dépistage intégré, que ce soit la promotion de l'eau et de l'hygiène, que ce soit la prise en charge du handicap, que ce soit l'auto-soin. Ces stratégies doivent aller de pair. On s'est rendu compte que la meilleure manière d'être efficace et d'être accepté par la communauté, c'est de déployer ensemble ces stratégies qui, finalement, sont des stratégies qui élèvent le niveau de santé globale de la communauté. Et c'est ce que nous disons, nous faisons d'une pierre plusieurs coups. Et c'est dans cette dynamique de la lutte contre les maladies tropicales négligées que nous avons mis en place ces stratégies. Justement, ces stratégies ont un coût. Et c'est tout le sens des Journées mondiales de lépreux célébrées par la Fondation Raphaël Ron.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. 66e Journée des lépreux. Dr Christian Johnson, président de l'Association internationale contre la lèpre et conseiller médical à la Fondation Raphaël Ron en poste au Bénin. Et merci beaucoup pour votre éclairage. Dr Antoine Mahé, chef de service dermatologue au centre hospitalier des hôpitaux civils de Colmar en duplex de Strasbourg. On remercie encore une fois nos confrères de France Bleu Alsace pour leur accueil.
Priorité santé sur RFI.
Après la flambée de l'an dernier en Afrique de l'Ouest, de nouveaux cas de fièvre de Lassa sont recensés surtout au Nigeria, quelques-uns aussi au Togo. Épidémie officielle même annoncée depuis mardi, déclaration du gouvernement nigérian et une conférence consacrée à cette infection s'est tenue encore très récemment à l'initiative de l'OMS à Abuja. Pour en parler avec nous en ligne, docteur Marie Jaspar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin infectiologue pour l'ONG Alima, médecin-chercheur pour l'INSERM à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut définir, décrire l'étendue de cette épidémie actuelle qui sévit en Afrique de l'Ouest, on l'a dit, principalement au Nigeria ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que tous les ans au Nigeria, une épidémie revient à cette même saison pour plusieurs raisons liées à l'exposition aux rongeurs qui se rapprochent un petit peu des maisons et donc qui contaminent plus les gens en saison sèche. Donc tous les ans, on est habitué à voir revenir cette épidémie. Cette année, clairement, on a l'impression qu'elle est franchement supérieure à l'année dernière. On a déjà quasiment eu la moitié des cas de l'année dernière qui se sont déjà présentés cette année. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus important, avec une mortalité plus importante. Donc visiblement, cette épidémie-là a l'air d'être plus virulente, plus importante en termes de nombre de patients, en termes de gravité des patients, que celle de l'année dernière et les autres années. On dirait que chaque année, ça augmente.
Le Nigeria concerné, d'autres pays de la région ?
Alors oui, mais c'est le Nigeria étant le principal pays concerné, c'est là où il y a le plus de chiffres, le plus de données qui sont disponibles. Théoriquement, il y a des cas au Bénin, ça on le sait, qui sont principalement liés à traverser de la frontière. Il y a effectivement un petit foyer d'épidémie au Togo récemment. Donc on n'est pas du tout à l'abri. Il y a eu des séroprévalences, c'est-à-dire il y a eu des patients qui portent la maladie en Guinée, mais qui sont pour autant pas malades. Donc on sent que dans la sous-région, il y a un potentiel potentiel de diffusion, mais le gros de l'épidémie, la grosse masse des patients malades, elle se trouve au Nigeria.
Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot rongeur, docteur Marie Jaspard. Donc, on a donc compris que une sorte de rat était impliqué dans cette transmission. Comment la fièvre de Lassa s'attrape? Et est-ce qu'on peut être contaminé entre humains?
Alors oui, tout à fait. La première contamination, c'est une maladie qui ressemble beaucoup à Ebola. Donc la première contamination vient du contact, entre guillemets, alors il y a plusieurs types de contacts, entre un rongeur un peu particulier, une catégorie de rat, si je puis dire, et un être humain. Et donc là, il y a le passage du virus entre le rat et l'être humain. Donc, comment est-ce que le rat contamine l'être humain? Alors le rat quitte la forêt quand la saison sèche arrive pour venir trouver plus de nourriture et circule autour des maisons. Il peut y avoir des urines et des excréments de rats qui viennent sur par exemple le manioc qui sèche au soleil ou des choses comme ça, ou les gens qui mangent du rat ou qui manipulent du rat. Enfin, tout ça a fait que le rat contamine l'homme, et ensuite, une fois que l'homme est contaminé, il peut contaminer d'autres hommes autour de lui par les mêmes mécanismes que l'Ebola, c'est-à-dire les soins aux malades, les soins lors des rites funéraires, des choses comme ça.
Alors, contamination, on vient de le voir, bien évidemment, les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs se demandent qu'est-ce que c'est les symptômes de cette fièvre de Lassa, hein, dont la mortalité est assez importante tout de même. Quels sont les signes? Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Alors, c'est là où c'est assez compliqué, parce que la fièvre de Lassa, c'est une fièvre virale, donc ça ressemble à toutes les viroses qui peuvent sévir sur le continent et même n'importe où. Donc, en gros, il y a de la fièvre, il peut y avoir des maux de gorge, le nez qui coule, les yeux qui coulent, ça c'est des symptômes de Lassa non sévère. Et évidemment, à un stade plus avancé, on arrive avec des troubles digestifs, des saignements digestifs, urinaires, des gencives, et puis ensuite des troubles neurologiques éventuellement, des troubles rénaux, avec la diminution des urines. Quand on prend en charge les patients, on peut aller jusqu'à la dialyse, jusqu'à la transfusion sanguine, jusqu'à des traitements de détresse respiratoire. Donc après, effectivement, tout s'aggrave et s'accélère en termes de symptomatologie quand le patient n'est pas pris en charge.
Alors, docteur Marie Jaspard, est-ce qu'il y a des recommandations pour la prévention, justement, pour ne pas en arriver à cette contamination?
Alors, il y a toujours à peu près les mêmes choses, hein. Donc, il y a l'hygiène standard, c'est-à-dire se laver les mains tout le temps. La face est comme Ebola, hein. Si on en a sur les mains, en se lavant les mains, on n'a plus de Lassa sur les mains.
Donc on se lave avec du savon, c'est toujours important de le répéter.
Bien sûr, tout à fait, avec du savon. Donc ça, c'est la précaution standard pour toutes les maladies. En l'occurrence, pour Lassa précisément, il faut éviter tous les contacts avec les rats. Donc c'est-à-dire pas les chasser, pas les manger, pas les manipuler. Et avec les excréments de rats, donc essayer de ne pas laisser des choses sécher au soleil, comme par exemple le gari au Nigeria, qu'on va pouvoir après manger sans avoir de retraitement de cette nourriture-là. Donc il faut éviter que les rats s'approchent des sources d'alimentation dans les foyers. Et ensuite, le dernier point, bien sûr, c'est de, quand quelqu'un est malade, il faut qu'il aille à l'hôpital, et il ne faut pas qu'on prodigue les soins, si je puis dire, à la maison, à l'intérieur du foyer. Il faut d'abord faire un diagnostic et ensuite voir si la fièvre de Lassa est suspectée. Mais évidemment, pour l'instant, le risque est principalement dans le sud du Nigeria et pas dans toute la sous-région, évidemment.
Il nous reste quelques secondes. Cette maladie a un caractère saisonnier?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est en général de janvier à avril-mai au Nigeria. Là, l'épidémie a commencé un mois plus tôt. C'est ça qui nous inquiète beaucoup sur le terrain, où on voit vraiment une nette augmentation des cas depuis le 1er décembre, avec une mortalité qui est assez importante, qui normalement dure à peu près jusqu'au mois d'avril. Alors, est-ce que ça va durer plus longtemps ou pas? Est-ce que c'est toujours compliqué avec les épidémies? Mais en revanche, toute l'année, au Nigeria, en tout cas, il y a des cas, ce qu'on appelle sporadiques, que nous, on suit depuis déjà un an au Nigeria. Et donc, il y a des cas régulièrement toute l'année, en dehors de cette période épidémique.
Merci beaucoup, docteur Marie Jaspard, médecin infectiologue pour l'ONG Alima. Merci d'avoir répondu à nos questions. Notre émission touche à sa fin, et lundi, dans Priorité Santé, on va parler de la sexualité des personnes en situation de handicap. Si vous avez des questions, 33 1 84 22 75 75.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.